Jean 12. On va lire un verset qui est familier, mais je vais vous souligner quelque chose d'important. Ça va être le tremplin pour notre message. On va lire les versets 23 à 25, mais je veux qu'on s'arrête sur le verset 25. Jésus leur répondit. Là, ici, c'est les Grecs qui viennent le voir. Ils disent, on veut voir. En fait, ils sont allés voir Philippe et André, puis on veut voir Jésus. Donc là, quand ils arrivent devant Jésus, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. » Ça, c'est l'évangélisation de Jésus. Ils voient des Grecs, c'est comme ça que leur présente l'Évangile. Spécial pareil, là. C'est parce que c'est l'essence de son message. Et juste pour faire remarquer, quand Jésus ici emploie le mot « vie », il y a plus qu'un mot dans la langue dans laquelle c'est écrit pour dire, pour parler de la vie. Et le mot ici que Jésus utilise, ça veut dire, comme je vais l'appeler de même, la vie de base, la vie terrestre. On peut dire ma vie là, de mon âme, parce que tu sais, il n'y a pas de surnaturel là-dedans, ok? Celle de quelqu'un qui est en vie, mais qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, par extension aussi, ça réfère à la vie du soi, de l'égocentrisme. Rappelez-vous, j'ai parlé des Grecs, ils étaient bien intelligents, mais il n'y avait pas la délivrance, il n'y avait pas la vie de Dieu, la vraie vie, ok? Donc, pas la vie qui vient de Dieu, christique. Okay? Donc, Jésus, à dessein, utilise ici, lorsqu'il parle de vie, à deux reprises ici, il parle de ce type de vie-là, ici-bas sur terre. Et donc, Jésus nous parle, dans le fond, d'aimer notre vie ici-bas, la nôtre, notre vision de la vie, nos désirs de la vie, notre pensée, notre volonté, nos émotions. Et ça, c'est ce que Jésus dit, mais bien sûr, ben, les philosophes grecs, et même la philosophie de ce monde, hein, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire exactement le contraire. « Pense à toi! » Tiens-toi loin de la croix. Mets-toi en premier. OK? Jésus dit exactement l'inverse. Mais savez-vous aussi, c'est deux pensées mutuellement exclusives. Parce qu'on perd automatiquement la vie élevée, spirituelle que Jésus donne si on veut s'attacher à celle qui est ici-bas. Et inversement, c'est ça. Dans le fond, Jésus annonce une loi spirituelle. Un exclut l'autre automatiquement. Tu veux ta vie ici-bas, tu perds celle-là. Tu t'attaches à celle-là en haut, tu vas être prêt à laisser celle-là, à la perdre, OK? Ou pour l'envoyer dans des mots de Jésus ailleurs, dans les évangiles, dans Matthieu, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, c'est ça ici la question. C'est pas de dire qu'on vit comme un moine ou qu'on mange plus ou je sais pas trop quoi, là. C'est vraiment la question de nos affections. Parce qu'on peut pas avoir en même temps ce que le monde appelle la vie puis ce que Dieu appelle la vie. Parce que c'est deux choses différentes. Ce que Dieu appelle la vie, c'est pas comme ce que le monde... Tu sais, Jésus, il dit, je suis venu donner pour que mes brebis aient la vie en abondance. Ben là, il parle de sa vie, celle qui vient d'en haut, celle du Saint-Esprit. Christ est ma vie. Tu peux pas avoir cette vie-là en même temps que celle du monde. Avec les nuances, je veux dire, on vit ici-bas, puis on mange des patates, puis on conduit des autos, puis je veux dire, on a une vie ordinaire ici-bas, mais c'est pas... notre identité, notre trésor, comprenez-vous? C'est de ça dont Jésus parle. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est considérer ça, ce choc des deux types de vie. Puis on pourrait dire, OK, juste un autre, ça me vient comme ça, là, mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ supérieur m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort, de la loi de cette vie-là. Comprenez-vous? Avec une supérieure qui supplante l'inférieur. Okay? Fait que c'est vraiment de ça qui est question. Fait qu'on va voir ensemble les gains de la croix, c'est le titre du message, les gains de la croix, et trois coups contre le moi, la vie centrée sur soi, égocentrique. Trois coups qui ont été donnés par Christ, par la croix, puis ça nous donne les gains de la croix. Premièrement, le coup du reniement de soi. Jésus a dit dans Luc, chapitre 9, verset 23, puis il dit à tous, « Quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, de chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Il y a une façon de trouver et de jouir de la vie de Dieu, c'est de renoncer à ses droits, à sa vie. Et là, comprenons autant les choses pécheresses et évidentes que les choses légitimes. Même renoncer à ça. Mes plans. Mes choses légitimes, mais non initiées par Dieu, dont Dieu n'est pas l'origine. OK? C'est ça l'idée. Donc, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il soit prêt. C'est ça, à renoncer à tout ça. Même ces bonnes idées, c'est que, OK, ça comprend tout ça. Parce que dans notre âme, notre personnalité, dans ce qu'on est, en dehors de l'œuvre de grâce de l'Esprit de Dieu, on a des soupirs, on soupire après l'aisance, la prospérité, la position peut-être sociale, la popularité, l'approbation des autres et les choses semblables, OK? Et on peut aspirer à toutes ces choses, que ce soit notre motivation, en ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est celui qui est notre vie, c'est Jésus. Et ce que je veux qu'on comprenne ici par rapport au reniement de soi, c'est qu'il y a une loi spirituelle qui fait en sorte que si dans ma vie, là, je chéris quelque chose, je choisis quelque chose, c'est ma motivation, c'est ce qui me propulse, bien là, il y a une loi spirituelle qui va faire que plus je m'attache à cette chose, plus je vais me détacher de l'autre et vice-versa. OK? Il y a une proportionnalité ici où est-ce que, puis je vais le dire demain, mes affections, mes motivations sont directement reliées avec, sont en relation avec mon environnement. Puis je vais vous l'illustrer avec la fameuse branche. Tu sais, Jésus, il dit, je suis le cèpe, vous êtes les serments, donc le tronc, la branche. Bon, quand la branche est reliée, est en relation avec son environnement immédiat du cèpe, du tronc, il porte du fruit. Mais aussitôt qu'il s'en détache, puis qu'il s'attache à un autre élément de l'environnement, c'est-à-dire ce qui n'est pas de... Ben, il cesse de porter du fruit. Et ça, c'est une loi spirituelle. Ce à quoi tu t'attaches, c'est ce que tu vas porter comme fruit. À Christ, tu vas porter son fruit. Aux choses ici-bas, tu vas avoir ce fruit-là. Et c'est selon cette loi spirituelle que notre égocentrisme va nous tenir pris à notre égocentrisme parce que je m'attache à ça. Si je m'attache à ça, je vais rester pris à ça. Je vais arrêter d'être égocentrique si je m'attache à Christ. Il faut que je change d'environnement, si vous voulez. Il faut que je change d'attachement. La clé ici, c'est à qui je me donne. Parce que si je me donne à mon égocentrisme, je vais grandir dans cet égocentrisme. Si je me donne à Christ, ou si je dirais, si je le laisse se donner à moi, si je vis de sa vie et que je cède mon indépendance, c'est ça l'idée de se renier soi-même, OK, parce que c'est ça notre point, ben plus je vais faire ça, plus Christ va s'exprimer, va vivre sa vie en moi. C'est ça le secret de la vie abondante. Le secret de la vie abondante, là j'ai une belle petite phrase, c'est s'abandonner à celui qui abonde toujours. Le secret de la vie abondante, c'est s'abandonner à celui qui abonde toujours, qui abonde en grâce puis en vérité. Hey, voulez-vous un gros coup? Hey, puis en plus, ça va être sur les internets. Voulez-vous que je vous donne le thème de 2025? Oh, OK, je vous le dirai pas d'abord. Personne ne dit rien. Vous êtes bien endormi. Ah, vous êtes bouche bée, OK. Hey, non, mais c'est j'ai vraiment une direction du Seigneur. J'étais tellement content, là. Des fois, je suis là, puis je prie, puis c'est tout bonnement, puis là, ça a sorti de main. Oui?
C'est quoi le... Je ne sais pas comment poser ma question.
Commence par le début.
C'est quoi le thème?
Ah, ben écoute, tu vas voir, c'est que à toutes les années, on a un calendrier, puis le thème, c'est le thème, parce que souvent, nos messages du dimanche matin sont basés là-dessus, ben okay. Le thème, ça va être plein de grâce et de vérité. Basé sur Jean, parce que ça m'a fait penser, parce que là, j'allais vous lire Jean 1. C'est quoi ça dit? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et donc, le thème, ça va être plein de grâce et de vérité. Donc, ça va être pas mal Jésus, là, le thème. Puis, on va passer ensemble dans l'année 2025, les dimanches matins, dans l'Évangile de Jean.
Oh, wow!
J'ai hâte! Ça, c'est le fun parce que c'est évangélique, évangélistique. Tu sais, on a souvent des visiteurs. Puis, ça, il y a tellement de richesses pour les enfants de Dieu. Fait que, ah, je suis vraiment content. On va passer à travers. Hein?
Toute l'année, ça va être.
Oui! Urgent. Puis, même que là, les. Ouais, ouais, je me suis sorti un plan, là, de Jean. Moi aussi, tu es ça. On va pas aller comme le mot suivant du verset, là. Ça va être un peu plus global. Mais j'ai même, tu sais, chaque mois, on va y aller avec les sections. Puis souvent, ça va avec, tu sais, parce que c'est très bien structuré, Jean. Beaucoup de chiffres 7 là-dedans, 7 miracles, 7 les je suis, puis tout ça. En tout cas, vous allez voir. Fait que, t'es pas dans le message, mais j'avais le goût de vous le dire. Fait que, moi, en tout cas, je suis content, là. Lui, il est toujours content, il n'est pas une référence. Toi, il est content quand même, hein. En tout cas, j'ai hâte de vous partager ça. C'est tellement. C'est merveilleux, la parole de Dieu, hein? On va explorer ensemble l'Évangile de Jean. Donc, c'est ça. Fait que là, je suis rentré à mon deuxième point. Reniement de soi, maintenant. Le deuxième coup que la croix a porté au soi, au moi, c'est la mort à soi. Jésus nous dit dans Luc 14, 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. » Attends un peu, c'est pas le bon. « Ne se charge de sa croix. » J'ai pas mis le bon verset, mais... Une image de la mort, OK? Et là, il faut faire attention. Jésus, quand il parle de porter sa croix, tout ça, c'est... Attends, comment je vais le poser la question? C'est dans quelle époque que Jésus dit ça? De façon dispensationaliste, là. Jésus, quand il parle des évangiles, il parle à qui, de qui? Comment?
Avant la
croix, sous l'ancienne alliance. OK? Donc, toutes les vérités. Jésus, parce que Jésus, lui, évidemment, il connaît toutes choses. Puis quand, même dans les évangiles, il donne des enfants qui vont en rapport avec la nouvelle. Comme quand il parle justement du cercle et du serment, il parle de notre union avec lui. Mais c'était en image, c'était pas développé comme c'est développé par la suite dans les épîtres. Mais quand on comprend ici de porter sa croix, puis la mort, OK, on comprend maintenant que lorsque Jésus nous parle de mort, ça réfère à notre union avec lui dans sa mort. Parce que oui, Jésus est mort pour nous, mais nous savons aussi que nous sommes morts avec Christ. Donc, la mort à soi, c'est pas quelque chose que faut que je fasse puis que je me mets comme fardeau. C'est quelque chose que j'accepte. Et là, on a parlé un peu ce matin. OK? Est-ce que je suis mort à mes ambitions? OK? Que moi, je voulais construire quelque chose, puis là, Dieu détruit tout. Quelqu'un qui est mort va dire merci Seigneur, parce qu'il est mort à ses projets, il est mort à sa propre vie. Fait que quand Dieu amène la destruction, ça ne le dérange pas parce qu'il est déjà mort à ça de toute façon. Tu ne peux pas faire des problèmes à un mort, il est mort. Ou vous essayerez ça. Quelqu'un qui est très tannant dans votre vie, vivez votre mort avec Christ. Je suis mort à cette personne, je suis mort à son offense. Je suis mort à son... l'irritation comme cause et tout ça. C'est de ça que je parle, OK? Vive notre union avec Christ dans sa mort. Parce que c'est la voie vers la vie. Parce que quand on accepte ça, c'est là que Christ vit en nous. Parce que là, la personne qui nous a offensés et qui vient nous chercher, si on accepte notre mort, là, Christ va pouvoir porter son fruit. Puis cette personne-là, au lieu de lui donner ce qu'on donnerait de notre chair, on va lui donner Christ. Parce que là, on devient un instrument dans lequel un vase que Dieu peut remplir. Ou pour le mettre dans les mots d'un verset que je vous... vous amène souvent, ça va vous aider à comprendre de ce dont je vous parle dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10 à 12, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. OK? Comment? Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans le corps. Voyez-vous, donc l'idée de mort, c'est une vérité doctrinale, mais aussi c'est une vérité de la vie. OK? Parce que, puis là, puis vous savez que là, il nous disait ça dans le contexte d'être persécuté. Ça, c'était la manifestation que... C'est ça, on porte dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Oui, de façon littérale, parce qu'il est persécuté, mais aussi mort à tout. Tu sais, Paul avait sûrement d'autres projets de vacances que ce que Dieu lui a donné comme voyage missionnaire. OK? Mais afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Donc, parlons de ça un petit peu. Puis, en passant aussi, là, ce que je vous ai dit là, on peut comprendre aussi Romains 6. Hein? J'ai été crucifié avec Christ. Non, pardon, excusez. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, et que le corps du, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Puis c'est pour ça que maintenant on se regarde comme mort au péché et vivant pour Dieu. Donc c'est ce dont nous parlons ici avec ce point de la mort à soi. C'est à la lumière de la croix, de l'œuvre que Christ a accomplie avec nous. Non seulement pour nous, mais avec nous. On est mort avec lui. OK? Et voici où ça devient intéressant. Dieu emploie des moyens, des agents. Pas toujours très secrets, là. Mais des agents pour produire cette mort. Pour produire, puis Paul est un exemple, le gars, il y avait des moyens, persécution, tout ça, mais il y avait des gens aussi, là. Ange de Satan pour souffloter, là. Messager de Satan, que ça veut dire. C'était peut-être pas juste un être céleste, il y avait peut-être aussi quelqu'un qui était un instrument de Satan, tu sais, un des judaïsants, par contre, par exemple, un des leaders qui, Paul avait instauré des églises, puis il venait tout détruire. Il amenait un autre message, puis, OK? Donc, Dieu fait ça. Il prend des moyens, des agents pour produire cette mort dans notre vie, pour révéler, mettre en lumière ce qui est de la mort afin de manifester sa vie. Prenons l'exemple de notre cher ami Job. Combien de fois on n'a pas ressemblé, n'est-ce pas, à notre ami Job qui... OK, on va faire un peu d'imagination sanctifiée. Job, il peut avoir quelque chose... OK, on va imaginer, mettons, un discours. « Dieu, sauve-moi de cette douloureuse épreuve de mort physique, de mort relationnelle. Je ne suis plus capable. Sauve-moi. Sauve-moi de ça. » N'est-ce pas pas mal le cri, tu sais, « Je suis plus capable. » Pas mal ça, le cri de Job, n'est-ce pas? Puis, pour nous, dans nos expériences, bon, on n'a pas été aussi loin que ce que Job a vécu, mais... n'est-ce pas qu'on a souvent regimbé contre les voies de Dieu? Tout comme Job, hein, on a vécu des choses qu'on a de la misère à accepter. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas content? Ben ça répare pas les choses, ça n'amène pas la solution. Des fois, ça nous empire, ça nous décourage encore plus, puis on voit encore plus de noir, puis on dirait que ça... C'est pas que ça nous éloigne des plans de Dieu, mais... Ça nous éloigne des voir la main de Dieu. Je dis, mon Dieu, c'est quoi tu fais là-dedans? Parce que là, on est absorbé dans nous-mêmes puis nos problèmes, puis on ne voit plus d'autre chose. Pourtant, cette mort même, avec Job, avec ce que Dieu a fait dans nos vies puis qu'il continue de faire, c'est le moyen même désigné par Dieu pour amener sa vie. C'est vrai aussi dans Job, n'est-ce pas? C'est quoi l'issue de vie de Job, de la vie de Job? La restauration de la vie, le triomphe de la grâce de la vie. Même pour son cœur, il a prié pour ses ennemis, puis tout ça, puis ben, ses amis qui n'étaient pas très amicaux, disons. Et ça, c'est le fruit que Dieu veut que le fait d'accepter la mort par laquelle il nous passait, puisse produire la vie. Pis c'est ça la dynamique ici dont on parle, la dynamique spirituelle. Et n'oublions pas que pourquoi c'est obligatoire? Pourquoi cette douleur? Pourquoi ces expériences? Ben, c'est simple. La chair, elle n'est pas sanctifiable. Dieu, en Jésus-Christ, a crucifié le vieil homme, OK? Ce que j'étais, mon identité, mon passé, ça, c'est fini avec Christ. Mais la chair, là, c'est pas comme si tu dis, bon, OK, là, ta chair va essayer de l'améliorer. Non, Dieu, la Bible nous dit qu'avec notre mort avec Christ, ça a porté un coup fatal à la chair. Mais Dieu veut nous faire expérimenter cette délivrance-là que lui a portée en amenant cette mort pour qu'on la vive, pour que notre confiance ne soit pas dans la chair, mais dans le Dieu qui est le Dieu vivant. Puis Paul dit ça dans 2 Corinthiens au début, il dit, il était vraiment dans une situation de mort parce que la persécution est tellement grande, on avait peur, on craignait même de mourir. Puis là, il dit, ben on avait accepté ça parce qu'on ne mettait pas notre espérance ici-bas, mais dans le Dieu qui ressuscite les morts. Okay? C'est à ce point-là que la tension était tellement rendue grande. C'est Dieu qui fait ça. Dieu avait cette mort qui laissait agir dans la vie de Paul, puis en ressortait tout le temps sa gloire, sa vie. Et c'est pour ça que Paul a laissé tellement une empreinte dans l'histoire de l'Église. C'est pas Paul, c'est Christ qui vit en Paul. C'est ça qui a fait une différence. mais ça a passé par beaucoup de morts. Je pense que dans les personnages que je connais dans la Bible, bon, Jacob, il était tête dure, puis il avait été. Mais Paul, je pense que c'est un qui a été les plus brassés par le Seigneur. Connaissez-vous d'autres? Bon, Pierre aussi! Mais en tout cas, c'est dur de faire des comparaisons, mais c'est le pattern. Il gardait constamment dans un état d'affliction, de mort, OK? Puis ça produisait. Pourquoi? Parce que Dieu le libérait de lui-même. Dieu lui montrait que la puissance de la chair n'était pas la délivrance, donc ça permettait à Dieu de s'exprimer, de que sa vie puisse ressortir de tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est obligatoire que Dieu donne son coup mortel, qu'on soit uni à Christ dans sa mort, puis qu'on vive cette mort afin qu'on jouisse de la vie abondante. Notre rôle, là-dedans, ça, c'est souvent la question, qu'est-ce que ça veut dire que je suis mort, puis que Jésus vit en moi? Voulez-vous le secret de la vie chrétienne? Voulez-vous le voir après-midi ou là, vous êtes fatigué aujourd'hui? Puis, hey, je vais vous donner le secret de la vie chrétienne. Non, mais encore là, un prédicateur, ça se répète juste avec des fois des refrains différents, mais c'est embrasser la mort avec Christ, c'est l'accepter, dire « OK, Dieu, ça fait partie de ton plan parfait, c'est pas parce que tu m'aimes pas, puis ce qui me fait mal, c'est embrasser cette mort. » On parlait ce matin de mort relationnelle. Seigneur, ça fait mal, puis Seigneur, de l'amertume me tord le cœur, mais je choisis la bonne part, je te choisis, t'es ma provision. Puis je vais pas vivre dans l'amertume parce que toi, t'as bien mieux que ça, t'es bien mieux que ça. Embrasser la mort, sachant que c'est le chemin vers la vie. Ou pour le dire autrement, embrasser la communion de ses souffrances. Mettons-nous à la place de Christ un peu, là, le Fils de Dieu, là, parfait, sans péché. Imaginez-vous comment que, tu sais, il dit que c'était un homme de douleur accoutumé à la souffrance. Puis, moi, comment je comprends les Écritures, je pense que sa souffrance était... Il y a eu de la souffrance physique, là, il y a eu faim, il y a eu soif, puis bon, surtout quand on pense à la croix. Mais je pense que sa plus grande souffrance était relationnelle. De voir comment dans ce monde-là, tu sais, ben, il était pas compris la plupart du temps. Là. Même par ses plus proches. Pas compris, délaissé, mal jugé. Tu sais, puis, tu sais, c'est ça. Pas juste mal jugé. « Ah, oh, je suis pas sûr de toi. » Non, t'es blasphématoire, t'es un démon, tu sais, puis... Fait constamment ce rejet. Et Dieu nous appelle à cette communion-là de ses souffrances. C'est ça, la mort à soi. C'est dire, OK, ça, c'est pas grave. Parce que Christ est ma vie. Donc, j'accepte la souffrance, la mort de la communion de ses souffrances. Ça m'amène au troisième coup que Dieu a porté au soi, non seulement... le reniement de soi, le renoncement à soi, la mort à soi, mais aussi la conquête du soi. Et vous connaissez, on en parlait tantôt. Ah, je vais vous l'expliquer à tout le monde. Prendre le temps de vous expliquer ça. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ah, je vais vous l'expliquer parce que tantôt j'ai expliqué, mais ah, je savais pas ça. Je pensais que vous saviez ça. Quand on regarde le contexte historique de ce que Paul ici explique, je vous ai lu 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. C'est le contexte de ce qu'on appelait l'entrée triomphale des rois. OK? Donc, quand un roi avait conquis un pays, ou peut-être une ville, là, avait conquis des personnes, ben, il arrivait avec son cheval, puis là, il rentrait dans la ville, dans sa propre ville, là, ou peut-être dans la ville conquise, dépendamment, mais. Fait qu'il rentrait, puis là, les gens l'acclamaient. Puis, il y avait quelqu'un en avant désigné pour ça, mais aussi les gens de la foule tiraient des fleurs. OK? Puis là, ben, lui, il était en avant, puis il avait sa troupe, mais mettons, ben, le roi est là, puis là, il y a l'entrée des triomphateurs, comme un cantique dit. Puis en arrière, à la toute fin, tu avais les prisonniers de guerre, qui eux autres étaient enchaînés, puis ils suivaient eux, ils n'avaient pas le choix, ben. OK? Puis là, ça dit odeur de mort, odeur de vie. Fait que là, voyez-vous, ça, c'est l'image. Donc, qu'est-ce qui arrivait? Vu que les gens tiraient des fleurs, les sabots, puis les gens qui marchaient, mais aussi il y avait des chevaux, ça broyait les fleurs, donc ça dégageait une odeur de fleurs. Pour ceux qui triomphaient, là, waouh, hey, on a gagné, puis tu sais, c'était un odeur de triomphe. Mais pour ceux qui suivent en langage, là, qui ont la honte d'avoir été battus, là, c'est une odeur de mort. Même chose, OK? Le triomphe de Christ, là, sur la vie, surtout, là, OK? C'est un triomphe complet, puis nous, on s'en réjouit. Mais pour les gens qui sont encore morts dans leur offense et leur péché, puis qui n'acceptent pas la provision de la grâce de Dieu, c'est une odeur de mort. C'est pour ça qu'ils disent, ah, toi, ton Jésus, comprenez-vous, parce qu'ils ne trouvent pas ça précieux. C'est pour ça que nous, on se glorifie dans la croix, parce que ça, on sait, c'est la grande victoire, la croix. Jésus a vaincu tous ses ennemis. Tu sais, même la loi a été clouée avec lui, puis les dominations, tout a été vaincu. Donc, c'est ça ici l'idée du verset. C'était plus long que j'avais prévu de dire, et vu qu'on en parlait ce midi, mais parlons de la conquête de soi. Dieu nous conquiert nous-mêmes. Ça, c'est une belle délivrance. Dans notre Dieu, dans notre vie, Dieu ne conquiert pas juste le péché, puis des problèmes qu'on peut avoir, tu sais, il nous conquiert nous-mêmes. La conquête de soi, voici ce dont il est question. Le seul qui peut conquérir le soi, la chair, c'est Jésus. Et là, on parle de roi. Continuons avec le thème des rois. Vous savez qu'un roi, là, d'habitude, regardez dans la Bible, là, les rois sont pas mal orgueilleux. Il y avait des bons rois en Israël là, qui étaient humbles, le roi David, mais il y avait de l'orgueil aussi. Mais bon, OK, mais en général, on regarde surtout les rois païens, là, Nebuchadnezzar, puis qui est pas mal orgueilleux, OK? Donc, il laisse pas facilement sa place. Puis Jésus nous parle de ça dans un contexte qui ressemble pas mal à ça, avec un autre roi, là, mais il nous dit dans Marc 3, ça dit, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé par Belzébul. OK, on parlait tantôt d'être faussement accusé, là, bon. C'est le prince des démons, c'est par le prince des démons, pardon, qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, la maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Donc là, Jésus leur clarifie, non, ça ne marche pas ce que vous dites, c'est pas logique. Mais il y a un principe ici qu'on voit, c'est qu'un roi ne sera pas délogé à moins qu'il ne soit forcé par un plus fort que lui. Ce matin, j'ai cité la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. La loi supérieure de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ben, dans ma vie, là, moi ne peux pas se débarrasser de moi. De ce qu'on a déjà essayé? Moi, j'ai essayé, moi, de me débarrasser des tendances du moi. Mais ça ne peut pas marcher. C'est un roi qui dit, tu sais, selon ce que Jésus dit là, ça ne peut pas marcher. C'est un royaume dans un même royaume, puis tu es divisé contre toi-même. Ça en prend un autre. Puis ici, Jésus, évidemment, parle de Satan, puis lui, Jésus est venu détrôner, OK? Jésus est venu en conquérant. Bien, c'est ça aussi dans notre vie. Et c'est quoi, donc, je dis, ah, j'ai de la misère avec ce roi du moi qui est me, myself, and I, qui veut tout décider. J'ai bien de la misère avec mes habitudes ancrées, puis je suis têtu, puis OK. C'est quoi la solution? Accueillir à bras ouverts le prince de paix dans le temple que Dieu nous a donné. Hein, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Accueillir-le à bras ouverts. Il est le roi conquérant. C'est pas plus compliqué, là. On n'a pas de fardeau. Là. Dieu, conquiert-moi. Je m'ouvre à toi, tu es le prince de paix. Moi, je suis là tout agité, les pensées s'agitent au-dedans de moi. Je veux t'accueillir, toi qui es ma paix. C'est moins compliqué, hein? C'est plus paisible, n'est-ce pas? Comme plan de match, là, moi, je suis pas mal, je suis vendu à ça. Et je suis content d'apprendre ces voies-là. Mais, de façon insidieuse, le roi du moi, là, pendant longtemps, il a voulu régner en nous. Mais Christ, notre roi, lui-même prend soin de nous. Puis c'est ça, lorsqu'on s'ouvre à lui, lorsqu'on accepte ses voies, humblement, puis en croyant que lui, c'est mieux, puis qu'il fait mieux, il va opérer cette délivrance. C'est pour ça que on doit simplement garder cette ouverture face à Dieu lorsqu'il veut briser notre résistance, notre insistance. Dire, OK, Seigneur, j'accepte tes voies. Puis aussi voir que mes efforts ne vont que remplir les choses. C'est quoi le constat de Romains 7? C'est plus on essaye fort, plus on est misérable. Plus le moi veut chasser le moi, plus il est découragé. Donc c'est ça, il faut laisser le roi, le roi de Romains 8, de celui qui n'a plus de condamnation en lui, qui n'a plus de séparation, c'est lui, Dieu le Saint-Esprit qui vit en nous. et le laisser conquérir nos vies. Regardez pour terminer Galates, écoutez, c'est-à-dire Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ça, c'est notre appel à acquérir, à prendre, à s'approprier les gains de la croix. Et ça, ce n'est rien d'autre que quelque chose de surnaturel. Et pour citer notre cher Esaïe qu'on aime ici spécialement, « Au lieu de l'épine se lèvera le cyprès. » Il y a un beau cantique là-dessus. « Au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. » Là où on a donc eu de la misère, on avait des mauvaises herbes, puis des ronces, puis tu sais, comme avec la malédiction, Dieu va faire un jardin qui fleurit, puis pour l'Éternel, ça va être pour l'Éternel une gloire, un monument impérissable. Pourquoi? Parce que ça va être évident que c'est lui qui l'a fait. C'est pas moi qui ai essayé de chasser moi, c'est Christ qui vit en moi. Et Dieu est capable de chasser notre vie répulsive. N'est-ce pas que c'est repoussant pour nous-mêmes puis pour les autres, l'égocentrisme puis le « je m'en moi toutisme ». C'est un pas pire mot, ça. « Je me moi toutisme ». C'est « je me moi », mais dans tout. « Je me moi toutisme ». Je viens d'inventer un mot. Pas si c'est vraiment inspiré, mais quand même, c'est pas si pire. Hein? « Je m'en moi toutisme ». C'est repoussant, c'est pas attirant. Mais Dieu, lorsqu'on lui laisse la place, il nous libère et on peut expérimenter cette vérité. Puis là, je veux terminer avec une pensée. La Bible nous dit que dans Actes 20, 35, ça dit que Jésus, là, il répétait souvent ses paroles, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis moi, là, je vous dis, OK, encore là, des fois, je vois des versets de la Bible, puis là, j'y recomprends pour la première fois. Moi, j'en vais, ben, c'est comme je voyais Jésus, puis il dit, OK, là, Jean, là, hey, Pierre, là, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est comme, il leur disait quelque chose, hein, faut que tu donnes. Moi, je pense que c'était quelque chose que lui-même profondément a incarné. Jésus se donnait constamment. Puis il disait, vous voyez les gars, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il le disait, il le prêchait par l'exemple. Puis les autres, ben, tu sais, comprenez-vous, c'était pas comme, hey, c'est quelque chose que tu dois faire, quelque chose qu'il voyait en lui, puis qu'il mettait des mots, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis les autres, ben, ouais, t'as bien raison. Moi qui pense juste à moi. Il y a une pensée là-dedans qui me frappe, c'est-à-dire que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est profondément christique. C'est Christ qui a eu le bonheur. Ça dit, hein? On voit dans Hébreux la joie qu'il a eue d'amener plusieurs fils à la gloire. Puis en échange de la joie qui lui était réservée, Christ a eu la joie de se donner. Puis c'est ce qui a fait que, justement, il a opéré cette grande délivrance. Puis qui a donné un coup fatal au soi. Puis, pour nous, ce que je vois là-dedans simplement, c'est que c'est ce que Jésus incarnait, c'est ce que Jésus était, celui qui se donne. Mais c'est pas fini, c'est encore ce qu'il est. Et ça, c'est un encouragement pour moi que Dieu veut encore se donner à moi. Dieu, tu sais, je disais tantôt, ouvre les bras pour que le prince de paix règne hein, dans ton temple. Mais justement, il est disposé, c'est ce qu'il veut. Il veut se donner à nous. Ceux qui se rappellent, je pense que je l'ai déjà donné comme exemple, mais au pire, je vais radoter encore, c'est pas grave, vous êtes habitués. Vous êtes un peu pognés avec moi, mais bon. On avait entendu un message sur Jean 13, Jésus qui lave les pieds des disciples, rappelez-vous. Puis c'était bon son message, il avait tout bien expliqué, puis tout ça. Puis là, il dit, il lance son appel à la fin, il dit, hey, les non-sauvés, Jésus est mort pour vous, il veut vous servir. Puis là, j'étais, yes, il a compris. J'étais là, oui, c'est beau. Après ça, mais vous, les chrétiens, on est sauvés pour servir. Fait que là, à cette heure, forcez-vous, puis servez. Ah non, Jésus aussi veut nous servir. Puis plus Jésus nous sent, plus, dans le fond, on déborde de service, comprenez-vous? C'est comme si, hein, il veut se donner pour les non-sauvés, nous autres, les sauvés, ben, ramez fort, à contre-courant. Non, Jésus veut se donner encore, là, puis, tu sais, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a une liberté là-dedans, de dire, OK, Mon Dieu est disposé, là. Tu sais, il m'aime, puis il veut me donner toute la grâce dont j'ai besoin, là. Puis moi, j'ai pas à tout m'en faire, puis par où je commence, là. J'aime ça, des fois, dire, fais juste en parler à Dieu. Ton enfant qui arrive, tu sais pas quoi faire, cette personne, réponds en parlant à Dieu. Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Ben, demande à Dieu. C'est-tu compliqué comme théologie? Invoque-moi, je te répondrai. Tu me glorifies. Attends, là, je ne veux pas mêler deux versets, mais en tout cas, invoque-moi, je te répondrai. Mais aussi, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Tournez-vous les yeux vers l'Éternel, Ésaïe 45-22. Toutes les nations. Hein? Ah, puis j'en ai un ici. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Ah, donc c'est ça. C'est pas compliqué que ça. Pas mal ce que je voulais vous partager. C'est correct, ça? Pas si pire, hein? Ah, merci, Monsieur Sourire. Monsieur Bonne Humeur. Amen, on va prier. Seigneur, merci pour les vérités de vivre à la lumière de la croix. Et, Seigneur, en bout de ligne, tout est par rapport à ton œuvre, ta rédemption, à cette croix. Et la résurrection t'a vaincu la mort. Et Seigneur, Paul a quand même dit quelque chose que moi, j'ai de la misère à m'identifier, à comprendre. Il ne voulait pas d'autre chose, d'autre pensée que celle que Christ et Christ crucifié. Donc, il en faisait tout qu'un cas de cette croix. Seigneur, que tu nous enseignes les merveilles de la croix, de vivre à la lumière de cette croix. Tout est accompli. Vive du bon côté de la croix, le côté de la libération, de l'émancipation, de l'acceptation, Seigneur, et qu'on emporte du fruit abondamment, Seigneur, à ta gloire, qu'on soit un peuple qui te célèbre, qui te glorifie par notre célébration, notre louange, Seigneur, de ta grâce merveilleuse. On te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.